début des années 2000, en Belgique, un informaticien perçoit dans les pratiques d'échange de fichiers, en pair à pair, une clé du changement. Avec Internet, réalise-t-il, les travailleurs de la connaissance ont la capacité de s'organiser, de créer de la valeur, sans l'aval de structures centralisées, pour basculer dans un monde post-capitaliste. Basé sur des communs, notamment numériques, et une distribution des données et du pouvoir. En 2005, Michel Bauwens donne corps à son intuition dans un manifeste, P2P and Human Evolution. Depuis, il défend qu'une société des communs est viable et désirable à travers la P2P Foundation. Un réseau international de chercheurs engagés qui observent et promeuvent l'émergence d'une nouvelle économie centrée sur la production entre pairs et la création de communs numériques et physiques. En décembre 2022, Commun accueillait Michel Bauwens pour une conférence exceptionnelle à l'espace, le tiers-lieu d'après. Une conférence podcast participative, enregistrée où le public questionne directement Michel Bauwens, notre invité. Je suis Antonin Calderon et avec David Brun-Lambert, je vous souhaite la bienvenue dans ce nouvel épisode de Commun, saison 3.
Commun, le podcast d'après.
J'ai envie de commencer en fait cette soirée par une question rituelle qu'on a tout le temps dans le podcast Commun. Cette question, c'est la suivante. C'est quoi un commun pour toi ?
Alors, je crois que je suis la définition plutôt classique, donc qui a été faite par Elinor Ostrom et puis par des gens qui travaillent un peu dans le même sens. Donc, c'est une définition à trois aspects. Donc, d'abord, en fait, c'est quand même quelque chose d'objectif. Donc, il y a un objet partagé. Alors, cet objet peut être physique, ça peut être des pêcheurs qui se mettent d'accord comment pêcher dans leur communauté. Ça peut être ici en Suisse les villages qui décident sur les flancs de montagne. Mais ça peut aussi être, par exemple, un logiciel libre ou un commun de connaissances partagé, etc. Donc, mais il y a quand même un objet qui est là. Et donc moi, je méfie un peu des gens qui disent commun sans S, parce que ça devient très, très métaphysique. Et comment avec S, ça veut vraiment dire, oui, mais il y a quand même quelque chose de réel qui est là. Ce n'est pas simplement une alternative théorique, c'est vraiment une sorte de socialité bien spécifique. Alors, deuxième aspect, c'est il y a une communauté ou peut-être un multipartenariat qui a décidé de gérer une ressource selon commun commun. Donc ça, c'est important parce que, premièrement, c'est une activité. Donc en anglais, on dit « there are no commons without commoning », mais aussi c'est un choix. Donc, ça veut dire qu'il n'y a rien en soi qui ne peut pas être un commun. On peut choisir de le faire de la façon publique, donc l'État, le privé, mais on peut aussi choisir les modalités du commun. Et alors, le troisième critère, c'est justement cette autogouvernance. Donc, c'est le fait que les règles des communs sont décidées par les participants, les contributeurs du commun, et pas par l'État ou le marché. Ce qui ne veut pas dire, là aussi, c'est une différence avec certaines personnes, que le commun ne soit pas lié d'une façon ou d'une autre avec des marchés et des autorités publiques. Par exemple, Ostrom était très clair, il disait un commun qui n'a pas d'accord avec les autorités publiques ne peut pas continuer à exister parce qu'il sera détruit. Donc rien que pour exister et pour que la police ne vienne pas demain casser tout ce que vous avez fait, il faut quand même quelque part avoir des accords avec les pouvoirs qui sont en place. Et donc les communs ne sont pas en soi antisystémiques. Au Moyen-Âge, les communs étaient une partie tout à fait reconnue et structurelle de l'économie du Moyen-Âge. Donc, un commun n'est pas nécessairement un projet politique, anticapitaliste. C'est une pratique. C'est un choix de gérer, de produire d'une certaine façon.
Donc, une ressource partagée, une communauté et des règles pour cette gestion. Ça tombe bien, parce que c'est aussi la définition que j'avais en tête et je pense que je la tiens de toi d'ailleurs. Peut-être avant qu'on commence à discuter tous ensemble, peut-être tu peux nous dire deux mots sur ce qu'on a projeté derrière toi. Alors il sera du coup en référence, si vous nous écoutez, il est en référence dans la page de l'épisode du podcast. Mais si tu peux nous dire un peu peut-être dans quel contexte ça s'est fait et qu'est-ce que ça raconte, parce qu'il y a beaucoup de flèches, beaucoup de mots. Qu'est-ce qu'on en retire?
Je vais peut-être juste faire une petite historique de mon travail. Donc j'ai commencé il y a 20 ans, j'ai pris 2 années sabbatiques et j'ai étudié les transitions. Mais sur 2 ans, on ne fait pas grand-chose, hein, ça va très vite. Et puis j'ai commencé à, un peu ma vie en tant qu'activiste et chercheur, et je me suis concentré sur les communautés open source, leur gouvernance, leur licence, puis les communs urbains, et dernièrement, on va dire ce que j'appelle la production cosmolocale, donc une forme de relocalisation selon les modalités du commun. Alors, Covid est intervenu, du coup, je suis coincé, enfin, coincé c'est beaucoup dire, parce que je suis dans un endroit assez merveilleux, Chiang Mai, dans le nord de la Thaïlande, où je me réveille tous les matins avec les petits oiseaux. Et donc, mes enfants devaient pas aller à l'école non plus. Donc, enfin, on était vraiment en famille pendant 3 ans. Et là, j'ai décidé d'étudier, en fait, la macro-histoire. C'est-à-dire, je développe une hypothèse, ce que j'appelle la pulsation des communs, en anglais, the pulsation of the commons. Et en fait, l'idée de base, c'est que, donc, le marché et l'État sont des institutions extractives qui sont basées sur un surplus. Donc, pour exister, ils doivent conquérir, augmenter, etc., aussi bien en intérieur qu'à l'extérieur. Donc, d'une façon régulière, en fait, il n'y a pas d'exception. Ils vont surutiliser leurs ressources. Alors, avant, c'était régional, maintenant, c'est planétaire. Et donc, dans les moments descendants, donc il y a des cycles dans l'histoire, des cycles ascendants et descendants dans toutes les sociétés et les civilisations. Dans les cycles descendants où l'État et le marché ne parviennent plus à bien parvenir aux besoins de leurs citoyens, de leurs habitants, comme une sorte de réaction, il y a donc on fait revivre les communs. Et donc, pour arriver à cette conclusion, j'ai commencé à lire les grands macro-historiens. C'est des historiens qui interprètent l'histoire du monde dans leur totalité. Et donc, il y a Oswald Spengler, The Decline of the West, le déclin de l'Occident, qui a lancé en fait tout un débat qui dure encore aujourd'hui. Toynbee, qui était anglais, qui a écrit The Study of History. Carol Quigley, mais beaucoup d'autres. Hein, Joseph Campbell, je ne sais pas si vous connaissez, son travail sur la mythologie était en réaction sur Spengler. Jean Gebser, suisse, qui parle des états de conscience et l'évolution des états de conscience sociétales, est aussi quelqu'un qui a réagi par rapport à Spengler. Voilà. Donc, mon idée, c'est d'essayer de lire le maximum, j'en ai pour 20 ans, hein, de macro-historien, et de placer l'histoire des communs dans cette histoire macro. Pourquoi ? Parce que je crois que chaque mouvement a besoin d'une généalogie, donc on doit pouvoir justifier ses choix et son existence aussi par un discours qui part du passé, alors qu'aujourd'hui on vit dans un monde où il n'y a que le marché et l'État. Et donc c'est vraiment important d'insister que les communs ont toujours existé, qu'ils ont toujours été une troisième institution, et que là où le capitalisme les a pratiquement fait disparaître, en tout cas en Occident, ce qu'on appelle les enclosures, il est aujourd'hui vraiment important de remettre cette troisième alternative dans la conscience humaine.
Je pense que tu pourras aussi, au fur et à mesure des interventions, rebondir aussi sur le schéma. Je me lance peut-être avec une question qui est assez générale, mais peut-être qui pose un peu le décor. On parle souvent, on en parlait tout à l'heure, on était tout à l'heure dans une discussion d'économie de plateforme ou d'économie collaborative, extractrice et redistributive. Est-ce que tu peux, et tu as notamment écrit ça dans un de tes livres, est-ce que tu peux nous donner un peu des clés de lecture, une grille de lecture? Qu'est-ce qui fait qu'une plateforme ou qu'une proposition économique de service, de mise en relation, qu'est-ce qui fait que c'est extracteur ou redistributeur? Qu'est-ce qui change?
Alors, donc, en fait, quand je parle des communs et du retour des communs aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'on a des communs digitaux qui permettent une coordination non territoriale. Donc ça, c'est nouveau. C'est-à-dire que l'histoire de la civilisation, c'est en fait une réaction au changement climatique d'il y a 12 000 ans. Donc pour survivre, l'humanité a créé la civilisation pour pouvoir rester en Mésopotamie et tout ça. Donc c'est une relation géographique entre, on va dire, la nature et l'homme, la ruralité, la ville, etc., etc. Donc le fait aujourd'hui d'avoir des communs numériques qui permettent de passer une échelle non territoriale, c'est quelque chose de tout à fait important et ça change vraiment même le modèle civilisationnel. Bon, alors ce que fait le commun aujourd'hui déjà, c'est qu'il crée 4 adaptations du monde socio-économique. Donc j'ai fait un quadrant centralisation, planétarisation, distribution, localisation. Donc il y a le premier modèle qu'on connaît tous, c'est le modèle netarchique. Donc c'est-à-dire des entreprises capitalistes orientées vers le profit qui vont utiliser les communs pour des nouveaux modèles économiques.
Donc il est dans quelle case celui-là, le netarchique ?
Donc Uber, Airbnb dans le monde physique, Facebook, Google dans le monde immatériel. Donc globalisé et pour le profit. D'accord ? Donc les grandes plateformes privatives qu'on connaît aujourd'hui. Donc il y a un changement déjà dans le capitalisme, de ce que j'appelle un peu de façon provocante le capitalisme marxiste, c'est-à-dire qu'il utilise des ouvriers pour produire un produit et le vendre plus cher, en gros, vers un capitalisme et qui nous fait échanger et collaborer et partager et qui puise donc son profit de notre collaboration. Donc on est dans un autre, on n'est plus dans capital-travail, on est dans commoner-plateforme. Donc c'est très important, c'est vraiment donc moi j'appelle ça le capitalisme proudhonien, parce que Proudhon disait que le surplus venait de la collaboration et Marx disait qu'il venait de l'exploitation du travailleur. Alors deuxième modèle, ce qu'on connaît tous aussi, c'est le modèle Bitcoin, blockchain, donc les crypto-libertariens. Donc c'est un modèle distribué, mais pour le profit. Et hein, on sait tous que le Bitcoin a été pensé pour augmenter en valeur, etc. Et alors là, je dirais, ma critique, c'est évidemment que ce n'est pas parce qu'on commence en tant qu'ego qu'on reste en tant qu'ego. Donc toute compétition pour des ressources où il y a une rareté, on crée en fait un jeu itératif qui fait que dans fois qu'on joue, il y a déjà des plus forts et des moins forts. Et donc on termine toujours avec une oligarchie. Et alors de l'autre côté de ce quadrant, il y a les communs locaux, et il y en a beaucoup ici à Genève, et les communs globaux comme Linux, Wikipédia, etc. Mais moi j'ajoute en fait un petit supplément, j'appelle ça la cosmolocalisation. Alors en gros, donc ma théorie c'est que les guerres, c'est des guerres de système, les guerres mondiales. Chaque système de coordination a son élite. La Première Guerre mondiale, c'était la guerre entre la forme impériale, l'Austro-Hongrie, la Russie tsariste et les Ottomans, qui ont perdu. Et on a établi l'État-nation comme la seule forme légitime d'organiser le monde. Mais puis, comment est-ce qu'on gère l'État-nation ? Donc là, il y avait trois modèles, le fascisme, le communisme et la démocratie parlementaire. Et la Deuxième Guerre mondiale, c'est ça. Aujourd'hui, je pense, moi, que l'Ukraine, c'est ça aussi. C'est-à-dire il y a le modèle occidental, le capitalisme rentier, démocratique, marchand, avec une société civique forte, etc., et le modèle souverainiste d'État, où l'État gère et domine le marché. Donc je dirais qu'ici, pour être au pouvoir, il faut être ami des oligarques. Et là-bas, c'est le contraire. Pour être oligarque, il faut être ami du pouvoir. En gros, je simplifie, mais voilà. Et donc on est dans une phase descendante planétaire. Donc il y a de moins en moins de ressources. Donc si on a des institutions extractives, on va vers la guerre, puisqu'on va rivaliser pour ces ressources. Et donc, c'est quoi le modèle cosmolocal ? Donc, je prétends qu'aujourd'hui, la société civile est devenue productive, parce qu'on peut créer des communs, et on peut s'organiser avec les communs numériques. Donc, on peut utiliser une coordination non territoriale pour renforcer les communs civiques. Et on doit suivre un modèle cosmolocal, c'est-à-dire tout ce qui est lourd est local, et tout ce qui est léger est global et partagé. Donc il faut s'imaginer des réseaux économiques où il y a une relocalisation de l'économie, mais en même temps, l'organisation se fait au niveau planétaire, ou translocal ou transnational. Et donc selon un modèle non pas marchand, mais contributif. Donc l'idée, c'est qu'on utilise trop de matière et d'énergie aujourd'hui, donc on doit descendre. Or, relocaliser, ça veut dire déjà éliminer 2/3 de l'emploi de matière et d'énergie. Donc, 2/3 de tout ce qu'on fait aujourd'hui, c'est le transport. Donc, on élimine déjà le transport, c'est énorme. Puis, on mutualise. Donc, par exemple, on mutualise le transport de voitures privées, les associations, les coopératives de transport partagé. Une voiture partagée remplace entre 9 et 13 voitures privées. Donc, un énorme gain aussi. Localiser, mutualiser... mais pour être fort, Donc, pour contrer un système international étatique et un système transnational financier, il faut être au même niveau, c'est-à-dire donc il faut créer des alliances cosmolocales. Donc, il y a les entités productives, mais il y a au-dessus des, moi j'appelle ça des coopératives de protocole, protocol co-ops, donc par exemple, qui organisent en fait la collaboration. Donc la Wikimedia Foundation fait en sorte que la Wikipédia peut continuer à fonctionner. Et je les vois qu'on a d'abord un contre-pouvoir, mais en fait, ce que je propose, en fait, la quatrième forme de civilisation humaine, parce qu'il y en a eu trois avant, c'est une civilisation qui est donc commun-centrique, parce que quand on doit descendre au niveau planétaire, donc ça veut dire que l'extractif ne peut plus être aux commandes. Donc on doit avoir une institution qui peut protéger les ressources et qui est régénérative par rapport aux ressources.
Il y a quelques semaines, Frédéric Bosquet qui était là, qui parlait justement des SIC, qui sont d'inspiration italienne, donc les sociétés coopératives d'intérêt collectif. C'est de ça aussi dont tu parles quand tu parles des protocoles COOP. C'est ces coopératives multi-acteurs qui gèrent du coup ces ressources.
C'est ça. Alors il faut voir que l'économie contributive, elle a trois niveaux. Donc le premier niveau, c'est les communautés contributives. Donc on contribue à un commun et on crée de la valeur dans le commun. Autour de ces communs, il y a des coalitions que j'appelle entre donariales. Parce qu'entreprendre, ça veut dire prendre entre. Entre donneurs, ça veut dire donner entre. Donc ça veut dire que ce sont des formes de firmes, de coopératives, qui reconnaissent leur interdépendance à un commun partagé et qui donc vont être génératifs par rapport au commun. Donc Uber n'est pas génératif par rapport au commun. Airbnb n'est pas génératif par rapport au commun. Ils créent des problèmes énormes pour sécuriser leurs profits. Mais on peut imaginer des formes de plateformes coopératives qui font la même chose et qui renforcent le tissu social, etc. etc. Donc, il faut penser en tant que commoneur. Donc, si on pense en tant qu'ouvrier, on pense je travaille pour quelqu'un qui me paye et donc je dois faire en sorte qu'il me paye plus ou que j'ai peut-être plus à une voix plus grande. Mais quand on est commoneur, donc on doit penser qu'est-ce qui renforce notre commun dont on dépend tous. Et quelles sont les formes étatiques et marchandes qui soutiennent ces communs. Donc ça, c'est un peu la façon de penser. Donc on peut penser, par exemple, que Uber et Airbnb sont des... Donc c'est une cooptation des communs par le capitalisme, mais on peut aussi imaginer une cooptation à l'envers. Donc quelles sont les formes de capital qui vont renforcer le commun? Est-ce qu'on peut discipliner le capital avec des règles et des solutions qui font qu'en fait, ce capital sert l'expansion des communs?
Et si je peux donner un exemple, tu me parlais hier de capitalisme, qui ne fasse pas du capitalisme.
Oui, ça c'est en fait le frère de Jean Rossio qui a d'ailleurs créé la coopérative d'habitat.
Eric, ouais.
Et on était en discussion. Alors je ne sais plus si c'est lui ou moi qui est venu avec cette idée, mais je trouvais ça génial. Donc en fait, ces plateformes netarchiques sont des capitalistes puisqu'ils captent la valeur des communs. Donc c'est un petit jeu de mots, mais ça aide toujours à faire changer la pensée. Hein. Et c'est important d'avoir des nouveaux concepts. Parce qu'on est donc, depuis 400 ans, on pense en État-marché, et la gauche plutôt pour l'État et la droite plutôt pour le marchand, en tout cas d'une façon classique. Et donc on est toujours dans le binaire, et donc on doit avoir des nouveaux concepts pour étendre cette pensée vers une pensée, je dirais plutôt triarchique ou trinitaire, c'est-à-dire toujours penser le commun aussi. Alors je voudrais peut-être donner un exemple, si vous me permettez. Donc, il y a un des auteurs qui s'appelle Carl Quigley. Et donc, lui, il a un concept tout à fait intéressant. Il parle d'instruments d'expansion. Donc, pour avoir un surplus, il faut un instrument d'expansion. Il dit, par exemple, en Occident, c'était d'abord la féodalité, qui est devenue la chivalry, et qui est devenue une institution qui n'était plus du tout dynamique. Le mercantilisme qui est devenu... Non, plutôt le capitalisme commercial qui est devenu le mercantilisme. Et le capitalisme industriel qui est devenu monopolistique. Donc chaque fois, l'instrument d'expansion devient une institution qui travaille pour elle-même et plus pour la société. Donc alors, la société entre en déclin. Alors l'exemple que j'aimerais vous donner, c'est l'exemple des moines au Moyen-Âge. Donc au 5e siècle, donc à la fin de l'Empire romain, en fait, l'agriculture en Italie n'existait plus. Donc après les guerres puniques, ça s'était effondré. Donc il y avait des grands domaines où on faisait de l'huile d'olive avec des esclaves, mais on ne produisait plus de nourriture, elle venait de l'extérieur. Donc, au fur et à mesure qu'ils perdent le contrôle de l'Empire, donc il faut bien se nourrir. Et en fait, c'est un protocole, les règles de Saint-Bénédicte, comment on dit en français, de Saint-Benoît. Et donc, il a créé des simples règles qui ont permis à des milliers de gens de copier la formule. Et donc, c'est devenu un instrument d'expansion orienté commun parce que c'était une propriété collective. Et là, les cisterciens ont fait la même chose au XIe siècle. Ils ont complètement renouvelé l'agriculture. Donc,
ils ont relocalisé leur chaîne d'approvisionnement, en fait. Elles avaient été externalisées, sorties de leur société.
Ils ont relocalisé avec des formes nouvelles où tout le surplus allait vers l'infrastructure collective. Hein, c'est ça, si vous avez Uber, 30% du surplus va en Californie. Si vous avez une plateforme collective pour faire la même chose, donc qui est autopropriété des commoners, tout le surplus que vous générez. Mais je crois que c'est important, surtout vers une certaine tendance que moi je dirais hyper égalitaire, c'est qu'il faut vraiment un surplus. Si vous partagez tout le temps, vous restez petit, parce que vous n'avez pas de surplus pour investir dans votre croissance. Donc je crois que c'est important de penser aussi que même les communs doivent créer un surplus, mais ce surplus n'est pas individuel et privatif, c'est un surplus qui va dans l'infrastructure pour en fait renforcer l'écosystème.
Merci beaucoup. Je pense qu'on peut, ouvrir, si vous avez envie de rebondir sur ce que Michel a pu apporter.
Moi, j'avais juste une question par rapport à l'aspect territorial. Je travaille dans la transition alimentaire et puis c'est vrai qu'on parle de relocalisation, de re-territorialisation des systèmes, aussi d'économie circulaire. Je suis pas sûre de comprendre exactement... à quel point en fait l'aspect territorial est une limite qui est nécessaire et bénéfique, ou en fait si c'est une limite qui permet pas de vraiment développer ce troisième paradigme des communs. Donc là, il y avait juste quelque chose que j'ai pas réussi encore à saisir dans vos propos et que j'aimerais bien une clarification, si possible.
Alors, il y a deux choses. Donc, au premier niveau, c'est simplement au niveau de la connaissance. Donc, je vais prendre un exemple historique, les Incas. Donc, les Incas, ils avaient une agriculture, de terrasse. Et il y avait 40 ou 50 biotopes différents. Mais c'était vraiment une ingénierie agricole. Et donc, ce qu'on voit, il y avait aussi des cycles ascendants et descendants. Ce qu'on voit donc dans les cycles descendants, quand l'Empire se rétracte, que dans les régions où l'Empire ne partage plus ses savoirs, la population, elle tombe de 90%. Donc, en fait, dans le local, on n'a pas toujours la connaissance. Il y a beaucoup de connaissances qui doivent être locales, parce que chaque biotope est différent, etc. Mais il y a plein de choses en fait qu'on peut apprendre des autres. Donc, par exemple, quand on prend la permaculture, il y a des milliers de personnes, de groupes qui font la permaculture dans le monde entier, mais sont quand même aussi liés au Global Permaculture Design Course, etc. Donc, il y a toute une infrastructure qui fait que les innovations circulent d'une façon extrêmement efficace dans l'écosystème de la permaculture. Et ça, c'est grâce à ce partage numérique, il ne peut pas se faire uniquement dans le local parce que ça prend beaucoup trop d'énergie et de coûts. Et donc, c'est là que le numérique est bénéfique. Donc, il permet une mise en échelle. Et donc, cette mise en échelle permet de renforcer l'écosystème parce qu'on n'est pas seul. Alors, je vais vous donner un exemple qui, moi, m'avait quand même choqué. Donc, j'étais en Toscane dans l'économie solidaire et je crois qu'il y avait 24 logiciels de commande de nourriture qui avaient été développés. En parallèle.
Parallèle.
Donc, moi, je suis désolé, mais si vous êtes en compétition avec des magasins qui ont un logiciel pour le monde entier, forcément, votre nourriture va être beaucoup plus chère. Et donc, c'est à ce niveau-là qu'il faut aussi réfléchir. Donc, c'est très bien d'être territorialisé, mais il faut, à mon avis, garder cet aspect d'apprentissage et de gouvernance qui peut être translocal et transterritorial. Et c'est difficile parce que chacun est en survie et donc on regarde son propre petit projet. Mais aussi longtemps qu'on fait ça, à mon avis, les communs ne vont pas acquérir cette force d'alternative systémique par rapport au modèle existant.
Moi, je voudrais que vous me parliez un peu des communs, qu'on appelle les communs négatifs, plutôt dans le domaine digital, numérique.
Oui, alors évidemment, la question, est-ce que ce sont vraiment des communs, des vrais communs ? Et à mon avis, ce n'est pas des vrais communs, ce sont des faux communs, parce qu'ils ne sont pas gérés, il n'y a pas d'autorégulation. Donc, par exemple, vous êtes sur Facebook. Donc, en principe, il y a le principe du pair à pair, ça veut dire que vous pouvez vous connecter avec des 5 milliards de personnes dans le monde entier. Donc, c'est possible. C'est possible de créer un groupe. Mais tout le cadre dans lequel vous faites ce genre de partage est totalement contrôlé et centralisé. Donc, les données, les règles de gouvernance, tout ça, vous n'avez aucun contrôle. Donc, pour moi, ça, c'est des faux communs et même des communs négatifs. Dans quel sens, par exemple, on sait qu'Airbnb fait monter les prix dans les centres-villes et à Paris, par exemple, 15% de la population a déjà dû quitter les zones touristiques. En Athènes, on voit qu'il y a des problèmes. Uber, par exemple, là où le partage de voitures associatives et coopératives a un énorme coût moindre en énergie, etc. Uber, modèle compétitif, donc les chauffeurs d'Uber roulent pour être au bon moment, pour avoir la commande. Donc Uber crée plus de pollution que ce qu'elle remplace. Donc ça, c'est des communs négatifs, puisqu'en fait, ils créent... Mais je dirais que c'est des faux communs, justement parce qu'ils ne sont pas autogérés. Alors, on devrait peut-être me démontrer qu'il y a des communs autogérés qui sont négatifs. C'est possible, hein, peut-être la mafia avec les cartes de crédit. C'est possible, mais je n'ai pas vraiment étudié la question. Ça doit exister.
Merci beaucoup. J'avais une question, puisqu'on parlait, où tu parlais des Romains, et puis maintenant des communs négatifs numériques. Est-ce qu'il n'y a pas une question qui est essentielle autour du régime de propriété intellectuelle, sachant que le droit romain dont on a hérité institue la propriété comme étant au centre de son système, propriété de l'homme par l'homme à travers les esclaves, ou propriété sur la terre ou sur les biens. Qu'est-ce qu'amènent les communs ? Est-ce qu'il y a une possibilité de disruption de ce système-là qui nous entraîne vers ce qu'on connaît aujourd'hui ?
Oui, alors justement, c'est une très bonne question et je crois que c'est justement là que les communs interviennent en créant. Alors là aussi, il y a une controverse. Donc il y a ceux qui disent que surtout pas les communs ne peuvent pas être une forme de propriété. Et moi, je dis qu'elles doivent être une forme de propriété. C'est-à-dire que dans un monde où il y a déjà la propriété, ne pas avoir la propriété, on est terra nullius. Donc il y a res nullius, ce qui appartient à personne, et res communes, ce qui appartient à une communauté. Ce qui appartient à une communauté, on peut protéger. Ce qui appartient à personne, on peut le prendre parce que ça appartient à personne. Et donc là, je crois qu'on fait vraiment une erreur stratégique en disant on est en dehors, tout à fait en dehors. Non, on doit créer des formes de propriété collective. Alors, en principe, je ne suis pas certain que c'est vrai, mais je crois qu'il y a un fond de vérité. Donc, la notion des communs, c'est qu'ils sont inaliénables et que la propriété publique est aliénable. Donc, c'est-à-dire, par exemple, on va en Italie aujourd'hui, et l'héritage historique, ça fait déjà 15 ans qu'on est en train de vendre tout ça à des privés. Donc tout ce que nous on connaît comme l'art de la Renaissance et tout est en train d'être privatisé parce que l'État qui a besoin d'argent le vend. Par contre, si c'est commun, comme un trust, en fait ça peut pas être vendu. Et donc je crois que c'est là que les communs y jouent. Donc on crée une propriété collective avec usufruit. Donc, on peut faire des contrats privatifs temporaires, par exemple, Terre des Liens. Terre des Liens, un trust qui achète et protège la terre, mais qui fait des contrats avec des paysans, des contrats écologiques et avec des paysans. Donc, ça, c'est possible, mais c'est en usufruit. Donc je crois que c'est ça. Et alors il y a évidemment une théorie à laquelle je pense. Donc en fait, les empires orientaux donc avaient l'idée du père, l'empereur qui protège le peuple et qui a toujours dominé le marchand. Ils ont limité l'étendue du monde marchand. Or en Grèce, c'est le premier pays au monde où la classe propriétaire et qui prêtait l'argent est venue au pouvoir. Et la démocratie s'est créée contre le pouvoir des créditeurs. Et donc, on a un modèle harmonique en Orient. C'est, donc là, si on, s'il y a des révolutions, c'est simplement pour remplacer un empereur par un autre. Et en Occident, paradoxalement, on a un monde très antagoniste, mais avec un monde civique très fort. Et donc, le Moyen-Âge, qui avait une forme de propriété plutôt commune, hein, même les seigneurs féodaux, ce n'était pas leur propriété privée. Ils étaient, comment on dit ça, stewards. Donc, ils
au service, serviteurs.
Un seigneur féodal gérait la terre au nom de, son lignée, de sa lignée. Il ne pouvait pas simplement vendre la terre. Et c'est seulement après, je ne sais pas exactement, au XIIIe siècle ou XVIe siècle, qu'en réintroduisant la législation romaine, on a de retour absolutisé le droit à la propriété. Et là, les enclôtures, puisqu'un seigneur devait protéger ses serfs, mais un propriétaire capitaliste pouvait chasser les gens parce que les moutons rapportaient plus que les personnes. Donc on a fait ce shift en reconnectant effectivement avec la législation qui venait des Romains.
Moi, j'ai une question. Comment on arrive à faire passer les gens qui servent ces faux communs comme Uber ou Airbnb, parce que je pense qu'eux, ils sont dans une dynamique où ils souhaitent perdre de l'argent, avoir une source de revenus. Comment est-ce qu'on change le narratif pour leur faire peut-être faire quelque chose qu'ils aiment, c'est-à-dire la même chose, mais pour leur faire revenir dans un commun, en fait?
On peut travailler par rapport à la politique publique. Donc aujourd'hui, le critère de toutes les compétitions publiques, c'est que l'État doit être neutre par rapport au marché. Donc là, il y a un changement qu'on doit faire, c'est, je dirais, vers la valeur contributive. Et l'impact, c'est une valeur contributive négative. Donc on doit pouvoir juger en tant que politique publique que certaines formes économiques qui sont profitables au niveau économique, mais sont destructeurs socialement et au niveau de la nature, ne doivent pas exister. Donc ces solutions existent parce qu'ils externalisent leur coût. Et Uber, hein, donc le fait, par exemple, que chez Uber, tu attends et t'es pas payé. Puis tu as un client, tu es payé. Puis tu attends, tu n'es pas payé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est que le risque qui est normalement pris par l'entreprise a été externalisé vers leurs travailleurs. Et donc, tout ça, ça rapporte, mais socialement, c'est hyper négatif. Et donc, moi, je crois quand même que là, l'État doit jouer un rôle, c'est de, en fait, objectiver ce coût économique et écologique. Et du coup, ça doit être plus intéressant de créer une plateforme coopérative qui crée des impacts positifs, sociaux et écologiques, que de créer Uber. Une fois qu'il y a ce level playing field, comme on dit en anglais, à mon avis, on peut faire des choix meilleurs. Donc il faut changer les règles du jeu. Et ça, c'est pas quelque chose qui se fait d'une façon automatique, ça, c'est de la politique.
Question. On parle de conditions cadres, de partenariats bénéfiques entre l'État et puis les communs. Mais est-ce qu'il y a des exemples aussi où l'État, justement, a fait de l'ingérence et a dénaturé des initiatives de communs? Je serais intéressée d'en entendre plus là-dessus.
Je crois que ça, c'est plutôt le modèle standard. Je donne des exemples de mon expérience personnelle. Donc, j'ai travaillé en Équateur. J'ai rencontré les dirigeants de la plus grande coopérative d'habitat de Quito. Un projet vraiment fantastique qui donne de l'habitat aux plus pauvres. Et paradoxalement, il m'a dit, moi je préfère de loin les gouvernements néolibéraux que ces gouvernements de gauche. Alors il m'a expliqué pourquoi. En fait, ce qui se passe, c'est quand cette gauche va au pouvoir, elle prend tous les dirigeants du monde civique avec elle. Et du coup, ils vont changer de point de vue, puisque là, ils sont dans l'État, et ils vont décapiter le monde civil. Et donc, pendant 10 ans après la victoire électorale, en fait, il y a une dépression civique paradoxale, parce que et l'État veut contrôler. Donc, il y a un livre « Seeing Like a State » de James Scott. Et donc, par exemple, en Équateur, donc, il y a des communs de l'eau qui ont existé depuis des centaines, voire peut-être plus long, pour gérer comment l'eau descend des montagnes. Eh ben, l'État va venir avec ses ingénieurs et dire « Ah, mais non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. » Ils vont mettre du béton et tout ça. Et en fait, ça ne marche pas du tout. Donc oui, ça arrive tout le temps. Et pour ça, il faut des communs forts. Et peut-être que même qu'il faut, plutôt que des coalitions publiques communes, il faut peut-être des projets communs publics. Donc c'est-à-dire qu'il faut des communs suffisamment forts pour pouvoir aller à l'État, mais être assez fort pour avoir des conditions qui sont les conditions des communs et qui ne sont pas les conditions de l'État. Donc il faut faire vraiment attention. Et que, donc même, on va dire, des politiques progressistes peuvent finalement avoir des aspects qui, par cette centralisation du pouvoir et du contrôle, peuvent en fait affaiblir les communs plutôt que de les... Donc en fait, il y a une sorte de captation marchande, mais aussi une captation étatique. Et l'exemple clé, c'est l'État social. L'État social, c'était les communs ouvriers. Donc quand les paysans ont été chassés de leurs terres par les enclôtures, ils sont devenus le prolétariat des villes. Ils mouraient à 30 ans. Et ils ont organisé des communs sociaux. Ils ont mutualisé leurs risques de vie. Et ça a créé tous les prototypes qui ont fait l'État social. Mais c'est l'État qui a repris ces communs. Et du coup, ce n'est plus des communs. Alors je ne dis pas que c'est mauvais, parce que les communs, c'était 30% de la population et les droits au soutien social, c'était 100%. Donc, je n'ose pas trop juger là-dessus, mais le fait est que la sécurité sociale, c'est devenu des bureaucraties étatiques, etc., etc., avec tous les problèmes que ça pose.
Je voulais répondre à la question précédente, parce qu'on a eu la chance d'avoir le professeur Benjamin Coria qui est venu à Genève sur invitation de l'État de Genève. Et puis, pour parler justement de l'intérêt des communs pour les pouvoirs publics. Et dans les différentes discussions qu'on a eues, il nous a mis en garde justement sur les dynamiques dans lesquelles l'État tend à s'accaparer ou à vouloir jouer un rôle sur des communs. Il a donné l'exemple des tiers-lieux en France qui ont essaimé un petit peu partout. Donc des lieux qui sont gérés avec une gouvernance partagée qui répondent à la définition des communs. Et l'État a commencé à dire « Ah ben, c'est super quand il y a des tiers-lieux, il y a de l'interaction sociale, il y a des avantages. Donc on va faire des appels pour créer des tiers-lieux un peu partout. » Et les grandes entreprises qui ont vu là une manne financière pour retirer du profit, donc Bouygues ou des grandes entreprises, se sont mis à faire du tiers-lieu, mais qui était du tiers-lieu prétexte, qui avait toutes les formes d'un tiers-lieu, mais qui était quand même avec l'objectif de créer un maximum de rentabilité. Donc ce qu'il nous a dit, c'est que faites attention, quand l'État s'empare de la question des tiers-lieux, il a tendance à vouloir contrôler, à vouloir mettre en place des structures qui permettent de gérer et de l'incorporer dans sa façon de faire. Et c'est très subtil, l'ingénierie des relations entre communs et le secteur public. Et je pense qu'il avait tout à fait raison à cet égard. Je voulais rebondir par rapport à ce qu'on disait avant, par rapport à la question de comment est-ce que les communs ou la vision des communs impactent aussi les droits de l'homme. J'ai vu récemment une conférence du grand penseur africain Achille Mbembe qui était intitulée « Le droit à la respiration ». Et pour la faire courte, il disait que les droits de l'homme actuels ne sont invalides du moment qu'on se trouve dans des endroits où la qualité de l'air est tellement mauvaise qu'on ne peut plus respirer. Est-ce qu'il ne faudrait pas subordonner ou en tout cas mettre en avant dans les différentes déclinaisons des droits de l'homme le droit à pouvoir respirer, ce qui signifie qu'en fait qu'on considère l'air comme un commun. Et donc ça ouvre des champs extrêmement intéressants si on va dans ce sens-là.
Oui, alors peut-être un petit commentaire. Donc, il y a un auteur américain qui s'appelle Peter Barnes qui propose déjà depuis un certain temps ce qu'il appelle le Sky Trust, donc qui est une solution commune. Donc, il y a la taxe carbone, donc qui est une solution étatique. Il y a le marché de carbone qui est une solution marchande. Mais il y a aussi... Donc, le Sky Trust, c'est quoi? Donc, c'est dire en fait... que l'air est un commun, que chaque être humain a droit à sa portion d'air pour pouvoir vivre bien, et que donc ceux qui utilisent plus d'air doivent payer de plus en plus cher, mais que cet argent va directement à ceux qui emploient moins d'air. Et ça, pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est un modèle qui, en même temps, règle le problème écologique, mais en même temps fait de la redistribution sociale. Alors, autant dire qu'aujourd'hui, dans la politique contemporaine américaine, il n'y a aucune chance que ça passe. Hein. Mais en tout cas, je crois, au niveau des idées, c'est intéressant de considérer. Mais ce qu'il faut faire attention, c'est de ne pas employer le commun comme une sorte de... L'air est un commun. Mais non, l'air n'est pas un commun. L'air n'est pas géré comme un commun. L'eau n'est pas gérée comme un commun. C'est quelque chose qu'on a en commun, mais ce n'est pas un commun. Et donc là, il y a des gens qui emploient le mot commun. Donc, par exemple, l'OTAN parle des Global Commons, mais en fait, pour eux, c'est Global Terra Nullius. Donc, tout ce qu'eux, ils peuvent contrôler, ils appellent ça des communs, mais ce n'est pas des communs. C'est des choses qui sont à personne. Et justement, il faut vraiment être... Et donc, même par rapport à ta remarque sur les communs, la politique des tiers-lieux, il faudrait définir les tiers-lieux comme des communs. Et avec ces définitions, évidemment, on peut alors empêcher que ces faux communs soient subsidiés. Parce que, clairement, si c'est une propriété privée gérée par Bouygues, bah, c'est clair que ce n'est pas un commun. Et donc, du coup, ça sort de cette politique de soutien.
Oui, alors j'aurais, je crois, deux questions, peut-être trois. On a parlé un peu de la gouvernance des communs, là. Mais j'aimerais bien avoir plusieurs exemples, justement, enfin, comment protéger mieux ces communs. Et puis, est-ce qu'il y a des exemples de pays où le commun, la notion de commun est inscrite dans la Constitution? Parce que je vois ça peut-être comme une manière de protéger mieux les communs. Beaucoup plus tôt, vous avez parlé de croissance dans les communs pour qu'il y ait un surplus à redistribuer. Qu'est-ce qu'on entend par croissance là? Et est-ce que c'est vraiment croissance qu'on veut ou simplement le commun doit le maintenir à un niveau de surplus par rapport aux personnes à qui ça profite?
Je dirais que pour commencer avec les dernières questions, évidemment, un surplus des communs ne peut pas être la même chose qu'un surplus pour l'État ou le privé, puisque le but, c'est de préserver les ressources au long terme. Mais ça peut vous pouvoir dire... Donc, par exemple, un monastère, quand il s'installe quelque part, sur 100 ans, ils sont les plus riches. Donc, ils ont une telle efficacité, une productivité. Et en Italie, c'est très clair. Hein, quand on voit les monastères en Italie, c'est les classes moyennes. Hein. Les moines, ils avaient un beau petit appartement, petit, mais et ils avaient leur nourriture, ils avaient une vie spirituelle, enfin... Donc, ils vivaient pas dans des huttes comme les paysans au départ. Donc, ils avaient aussi leur surplus. Mais donc, dans ce cas-là, le surplus, l'instrument d'expansion, c'est ça le terme que je vais employer, a permis à ce modèle de s'étendre. Donc, aujourd'hui, les communs sont marginaux, sont petits, sont émergents. Et si on réussit pas à faire de ces communs une institution centrale de la nouvelle civilisation, on ne va pas y arriver.
Et peut-être pour finir, Michel, s'il y était un commun à inventer, ce serait lequel? Ce n'est pas plus facile après, c'est normal. C'est toujours la question piège.
Alors, je vais peut-être inventer un commun de la spiritualité, parce que j'ai un ami qui vient de mourir, malheureusement, mais qui est le fondateur de la spiritualité participative. Alors, je vais expliquer comment il fait. Donc il dit qu'aujourd'hui, on ne peut plus vraiment croire sur parole ce qu'on nous raconte, de ce qui s'est passé il y a des milliers d'années. Et donc, en fait, il propose un commun d'expérience spirituelle. C'est-à-dire que chaque année, il va inviter un représentant d'une tradition avec une pratique, vipassana, yoga, tantrisme, etc. Et pendant cette année, donc le groupe va... expérimenter les inductions en anglais, les invitations à l'action de ces traditions particulières. Mais le but, c'est pas de croire, le but, c'est d'expérimenter et de partager son expérience. Et donc, il fait ça évidemment sur le long terme. Donc, en fait, il a créé une sorte de réseau relationnel où les gens partagent leur expérience de façon continue. Et voilà, moi, j'ai médité, j'ai eu ça, j'ai eu ça, j'ai eu ça. Alors, je ne dis pas que c'est idéal, mais en tout cas, j'ai trouvé ça tout à fait intéressant comme pratique, pluraliste, mais qui n'abolit pas non plus les traditions. Donc, elle reconnaît les traditions, mais elle décide, on va dire, de les digérer d'une façon nouvelle, avec une pensée, justement, une sorte d'expérience collective qui crée un commun de chercheurs. Voilà. C'est un exemple de commun qui n'existe pas vraiment encore, mais qui pourrait être intéressant à créer.
Merci beaucoup pour votre présence. Merci beaucoup, Michel, d'être venu nous voir à Genève. Bonne soirée.
Michel Bowen, cyberphilosophe et théoricien du pair à pair, était l'invité de Comment, le podcast d'après. Comment, un podcast d'Antonin Calderon et David Brandenberg, enregistré et mixé par Pierre Venet, produit par Après et Chez Media. Merci à nos partenaires pour leur précieux soutien, la Banque Alternative Suisse et Nest, Fondation Collective. Plus d'informations sur Michel Bowens et en particulier ses écrits sur le site de la P2P Foundation, P2P Foundation en anglais, .net. On vous dit à bientôt pour un autre épisode de Comment, saison 3, le 5e épisode qui sera une rediffusion d'une conférence exceptionnelle capturée autour de Hans Wittmer en novembre 2021 à l'espace d'après. On vous dit à bientôt.
Comment?